Good Morning Business, face à le Chypre.
Face à mener le Chypre aujourd'hui, c'est Jean-Marc Daniel, la Banque de France, qui nous dit qu'entre le crédit privé et les subprimes, il y a des similitudes. Agnès Benassi-Kéré, seconde sous-gouverneure de la Banque de France, dit qu'elle voit apparaître des ingrédients qui nous font penser à la crise passée, notamment les montants en jeu. Alors, Emmanuel Le Chypre, crédit privé, subprime, même combat?
Bah, en tout cas, c'est intéressant que la Banque de France fasse le parallèle, et c'est quand même une information majeure. Ce qu'on attend des autorités de régulation comme la Banque de France, c'est précisément de reconnaître les ingrédients qui font qu'une crise peut se produire ou pas. Et puis là, attendez, la Banque de France, elle ne nous dit pas « Ah là là, c'est la crise de 2008 qui va se reproduire ». Elle constate juste qu'il y a ces effets qui pourraient effectivement être des germes. Et moi, je trouve que déjà, rien que ça, l'information est importante. Rappelez-vous quand même des erreurs de 2006, 2007, des raisonnements qu'on entendait. Les régulateurs, ils se sont quand même largement trompés à l'époque. Rappelez-vous, hein, le principe des subprimes, c'était... Derrière, c'était la titrisation, cette idée que finalement, en disséminant le risque partout, bah, vous finissiez par faire disparaître le risque, alors qu'en fait, on n'avait pas compris qu'en faisant ça, le risque, il était partout. Voilà, c'est l'effet, c'était caché. Vous connaissez l'effet, c'était caché?
Non, rappelez-moi l'effet, c'était caché.
Bah, prenez, si vous avez, par exemple, plein de morceaux de viande, vous en avez un qui est avarié, vous le sortez... Et puis, vous pouvez consommer tout le reste de votre viande.
Si vous
mixez tous vos morceaux de viande, c'est toute votre viande qui est complètement contaminée. Ensuite, toutes les crises commencent toujours par des gens, et par en particulier les professionnels du métier, donc les professionnels de la finance, qui vous disent que finalement, il n'y a pas de danger, ils ont tous des tas d'arguments rassurants. Alors en 2006, on entendait, les banques sont mieux diversifiées, les défauts resteront localisés, le marché immobilier américain ne peut pas baisser partout en même temps, les modèles de risque sont maîtrisés, etc. Aujourd'hui, on entend pareil, ce sont des fonds, pas des banques, ils sont peu endettés, l'exposition bancaire est limitée. Donc tous les gens qui défilent sur cette antenne pour nous dire qu'il n'y a pas de risque.
Vous n'y croyez pas.
C'est pas ça. Je dis que leur parole mérite d'être quand même très, très vérifiée. Il y a une opacité quand même qui reste un vrai problème dans cette mécanique du crédit privé. Donc, moi, je dis pas, je jette pas la pierre à la Banque de France, me moque pas de la Banque de France en disant oh là là, les rabat-joie, etc. Non, moi, je pense qu'il faut tenir compte de cet avertissement parce que les erreurs qu'on a commises dans le passé en ne voulant pas voir les crises qui arrivaient nous ont coûté très cher. Donc, prenons cet avertissement.
Personne n'a traité la Banque de France de rabat-joie. Hein.
Non, mais ça va venir très vite.
Bon,
vous allez voir.
Ah, bah, Jean-Marc, vous n'allez quand même pas faire ça.
Pas plus tard que dans quelques secondes.
Non, rabat-joie n'est pas la bonne expression. C'est que je pense qu'effectivement, la question qui se pose, c'est à partir d'un indicateur. Du steak haché. Est-ce que toute la viande est pourrie ou est-ce qu'il y a forcément un endroit juste où il y a une sorte de pourriture, donc pour reprendre l'image. Non, je pense que il y a d'abord sur la forme, mais c'est une question qui est peut-être extrêmement désobligeante pour la Banque de France, mais c'est ce que j'appelais l'effet de notoriété, le biais de notoriété avec Greenspan, c'est-à-dire quand vous êtes avec une nouvelle équipe, vous êtes obligé de vous faire remarquer, et pour se faire remarquer, il faut annoncer la catastrophe.
C'est ce que fait Emmanuel Moulin, il annonce une catastrophe.
Oui, je pense qu'Emmanuel Moulin est dans la phase du biais de notoriété qu'a théorisé en son temps Galbraith. Mais je pense que ça, c'est plus...
C'est assez mais après, c'est sur les montants. Parce
alors,
que...
sur la réalité des faits, effectivement, il faut voir quand même que la récession 2008-2009, parce que c'est ça qui nous menace dans ce diagnostic, c'est de retrouver les événements de 2008-2009, s'appuyer sur des événements qui n'étaient pas uniquement et exclusivement financiers, avec des indicateurs qui eux-mêmes étaient des indicateurs plus pertinent que ceux qu'on a mis en avant autour des subprimes. Le prix du pétrole au mois de juillet 2008 était à $144 le baril et chaque récession dans les phases cycliques précédentes a été précédée par une envolée du prix du pétrole. Là, on est plutôt aux alentours de $70 le baril. Le deuxième élément, c'est qu'effectivement, si on raisonne à partir de la dynamique cyclique, quand on regarde le taux d'utilisation des capacités de production, cet indicateur que les auditeurs téléspectateurs peuvent trouver très facilement sur le site de l'INSEE, on est à 2 ans du retournement cyclique tel qu'il est prévu par cet indicateur. Et de même, l'OCDE vient de sortir son indicateur composite avancé pour le G7, donc il là aussi est un indicateur d'évolution du cycle. Et là, le retournement a lieu lorsqu'on a dépassé les 101, ce qui était le cas au mois de juillet de 2008. Là, on est encore en dessous de 101, on est à 100,5. Donc, on n'est pas encore dans cette dynamique cyclique qui va provoquer la récession et la crise. Parce que 2008-2009, c'est la dynamique cyclique amplifiée par effectivement une réponse qui est une réponse sur au problème financier, le fait de ne pas sauver Lehman Brothers. Mais je pense qu'on n'est pas dans cette situation.
Parce que là, sur le crédit privé, ce qui provoque la crise, c'est aussi qu'il y a des demandes de retrait de gens alors
oui,
qu'ils ne sont pas liquides, sur des valorisations qui ont baissé.
Voilà. La question qui se pose dans ces cas-là, c'est effectivement ce qui avait été le cas en 2008-2009, ça a été la capacité de répondre aux enjeux des banques ou des institutions dont la faillite ou la disparition ou des pertes peuvent devenir systémiques. Est-ce que c'est le cas? Donc, est-ce que la Banque de France est en mesure de nous dire il y a véritablement des gens qui posent un problème systémique? Et la deuxième chose, c'est que quand vous regardez les réponses qui ont été apportées à cette époque-là, ce qui est inquiétant, en revanche, c'est que face à la prochaine crise, nous n'avons plus les marges de manœuvre qu'il y avait en 2008-2009. C'est-à-dire que sur le plan budgétaire, on n'a pas redressé les comptes, donc on ne pourra pas répondre sur le plan budgétaire. Sur le plan monétaire, le quantitative easing a montré ses limites et donc on ne pourra pas répondre par du quantitative easing. Donc, si la Banque de France a raison, alors là, effectivement, il faut pas, c'est pas au niveau de la raillerie qu'on doit se poser la question, c'est au niveau de l'inquiétude structurelle de ce que l'ampleur d'une crise face à laquelle on n'a plus d'outils peut avoir comme conséquence sur la croissance.
Ce que je comprends pas, Emmanuel, c'est que la Banque Centrale Européenne a demandé aux institutions financières quelle était leur exposition en crédit privé. Et on a vu que sur les banques, très peu, parce qu'en elles n'en ont pas. Et par contre, il y a des assureurs en Europe qui en ont. Il y a AXA qui en a 15 milliards.
C'est bien ça le problème. C'est-à-dire que si vous regardez le système financier en 2008 et aujourd'hui, il y a quand même des changements considérables. Avant, le principal risque, c'était quand même les banques. Or, aujourd'hui, tout le risque, il est finalement hors des banques. Quand vous regardez, vous le dites, il y a les compagnies d'assurance, il y a les fonds de crédit privé, les hedges, il y a les fonds de pension, il y a les gestionnaires d'actifs, etc. Le risque aujourd'hui, il vient de toute cette finance qui n'est pas bancaire. Les banques, elles vont très bien aujourd'hui. Donc, moi, je pense que c'est compliqué. Je pense que on peut pas comparer, comme le fait Jean-Marc, 2008, c'est pas une crise cyclique. Il y a des chocs financiers aujourd'hui. C'est l'économie de bulle. Et l'économie de bulle, elle est de plus en plus dangereuse. On voit bien qu'on a des bulles de plus en plus grosses à chaque fois. Alors là, est-ce qu'on aura la combinaison? Parce que c'est ça qui était compliqué en 2008. C'est qu'on a... Pourquoi c'était une crise terrible? Parce qu'elle combinait crise financière et crise immobilière. Donc ça, c'est toujours celle qui met le plus de temps à être gérée. Mais je pense qu'effectivement, il faut se préoccuper de ces risques-là.
On va surtout faire venir Agnès Benassi-Kéré ou Emmanuel Moulin pour savoir s'ils ont un biais de notoriété, comme dit Jean-Marc.
C'est ce que je pose, et encore une fois, ça peut paraître désobligeant, mais c'est assez tentant de se poser la question quand même.
Mais vous aimez bien être un peu désobligeant sur les bords quand même, Jean-Marc.
Ce sont des humains,
Jean-Marc est un homme libre.